Bonjour à tous et merhaba de cette semaine en Turquie. Le sujet principal du débat la semaine dernière a été le suicide d'Enes Kara. Cet étudiant qui s'est retrouvé dans un dortoir géré par des confréries ne supportait plus l'atmosphère. Au-delà du geste désespéré d'un individu isolé, la répercussion médiatique de ce suicide a posé la question de la place des confréries dans la société et du conflit qui oppose familles conservatrices et jeunesse désabusée.
Le pays a été secoué cette semaine lorsque la vidéo déchirante d'Enes Kara est apparue. L'étudiant s'est enregistré une dernière fois avant de mettre fin à ses jours le 5 décembre 2021. Dans sa vidéo, l'étudiant en médecine de 20 ans a déclaré qu'il devait vivre dans le dortoir clandestin d'une confrérie religieuse pendant ses études. Parmi les autres pressions qu'il a ressenties à l'école, Enes a mentionné qu'il avait cessé de croire en Dieu et qu'il ne voulait pas adhérer à la vie religieuse stricte présente dans les dortoirs. Il en avait parlé à sa famille pieuse, mais en vain. Dans ses derniers instants, Enes explique « Vous avez l'impression que votre liberté a disparu. » La vidéo, devenue virale dans les réseaux sociaux, a suscité une large condamnation de toutes parts. La polarisation politique était visiblement absente car les partisans du parti au pouvoir et de l'opposition ont pointé du doigt la responsabilité de cette confrérie dans le geste désespéré d'Enes. En effet, selon la société de sondage Métropole, seuls 12% du total des répondants et 20% des partisans du parti AKP au pouvoir approuvent la pratique consistant à placer les étudiants dans des dortoirs religieux gérés par des confréries. Des responsables politiques n'ont pas tardé à réagir. Le président du parti d'Eva et ancien vice-premier ministre de l'AKP, Ali Babacan, a publié sur Twitter « Tant que les jeunes de cette nation ne pourront pas agir selon leur propre volonté et leur propre croyance, tant que nous n'aurons pas assuré leur liberté économique et de pensée, aucun de nous ne sera libre. Je suis profondément attristé et je présente mes condoléances. » Actuellement emprisonné à Edirne, l'ancien coprésident du parti HDP, Selahattin Demirtas, a dit « Je suis profondément attristé par le suicide d'Enes Kara, que Dieu accorde la paix à son âme. Le problème, c'est la pauvreté. La question du gouvernement et des confréries religieuses qui dirigent les gens par la pauvreté. Ensemble, nous allons changer ce régime. » Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, « Pendant des années, ils ont confié nos enfants à des fondations, des associations, des dortoirs de confréries religieuses. C'est pourquoi, pour la première fois dans l'histoire de la municipalité d'Istanbul, nous avons mis en place des dortoirs. J'ai été dévasté par la perte d'Enes Kara. Nous apporterons encore plus de soutien à nos jeunes. Ils ne se sentiront plus jamais seuls et sans espoir. » À l'inverse, le président du principal parti d'opposition, le CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a été inhabituellement modéré. Il a dit « Nous devons être responsables du contenu que nous partageons lorsqu'il s'agit de matériel douloureux concernant notre jeunesse. » Et pour répondre à ses détracteurs qui l'ont accusé de mollesse, pour ne pas avoir une image anti-religion, il a dit « Je comprends ceux qui sont en colère contre moi, mais pour des raisons éthiques, je ne vais pas publier à ce sujet. Le moment venu, ce qui doit être fait sera fait. Mais je comprends les réactions et les respecte. »
Ruşen Çakır est revenu sur le conflit qui oppose la génération des parents et la génération des jeunes qui se détournent de la religion.
Daha önce de benzer olaylar olmuştu.
Il y avait déjà eu auparavant des histoires similaires concernant des jeunes qui logeaient dans des dortoirs gérés par des confréries. Il y a déjà eu, par exemple, des incendies en raison de mesures inadaptées ou autres. Mais il y a surtout des histoires d'harcèlement, de pression, d'humiliation et parfois même de viol. Ou comme dans ce cas-là, un suicide. Et cela, malgré toutes les tentatives pour étouffer ces affaires. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Non, je pense pas. Je pense que ça existait aussi avant. Sauf qu'à notre époque, l'opinion publique peut rapidement prendre connaissance de ces histoires. Et cela peut se diffuser rapidement. Dans le cas d'Enes, c'est la victime elle-même qui témoigne et publie son message. Et le titre de cette émission que j'ai choisi, à savoir « Les préoccupations des enfants des familles conservatrices », doit être entendu de cette manière. Les enfants des familles pieuses ont des problèmes, traversent des épreuves et ils ont des préoccupations, ils sont inquiets. Et certains, en regardant le titre, se disent « Encore des conservateurs qui sont préoccupés, mais ça suffit avec ce thème. » Alors que là, on ne parle pas de la même chose. Lorsqu'on parle des conservateurs qui sont préoccupés, ce sont des personnes d'une certaine classe d'âge, les 40 ans et plus, qui ont vécu les années 90 au moment où l'AKP n'était pas au pouvoir, et qui aujourd'hui s'inquiètent de leur avenir au cas où le pouvoir changerait demain. Donc ils sont préoccupés par ça, mais surtout, en fait, par la possibilité qu'ils perdent leurs acquis qu'ils ont obtenus durant le règne de l'AKP. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais là, ce n'est pas notre sujet. Lorsqu'on parle des enfants de ces familles conservatrices, c'est tout autre chose. Ces enfants se détournent de leur religion. J'avais réalisé une émission avec Talha Hakanalp. C'est un théologien, comme vous le savez, qui a étudié dans des écoles coraniques et qui aujourd'hui se pose énormément de questions. Lui, par exemple, avait expliqué que les jeunes ne ressentaient pas spécialement une aversion vers les thématiques religieuses ou une opposition frontale, mais en fait plutôt une indifférence. Il disait que lorsque, au sein de la famille, la conversation tournait autour de la religion, ces jeunes préféraient consulter leur portable ou quitter la pièce. Donc plutôt un désir de ne pas faire partie, de ne pas participer à ces conversations. Et bien sûr, certains d'entre eux vont plus loin. Ils s'intéressent à d'autres thématiques, au déisme, à l'athéisme, au nihilisme. Alors, il y a une sérieuse dimension de conflit de génération. Mais la raison principale est que le règne de l'AKP a vidé de son sens la quasi-totalité des valeurs morales et que le pouvoir d'Erdogan a instrumentalisé systématiquement la religion pour le faire. Et dans ce même temps, les soutiens qu'Erdogan a dans la population pieuse ont préféré regarder ailleurs. Alors même qu'une partie d'entre eux était troublée par certains de ces agissements, ils ont préféré faire la politique de l'autruche en se disant « Si on critique Erdogan, on donnera des armes à nos adversaires ». Donc ils ont parfois regardé ailleurs et à certains moments sont même allés jusqu'à défendre ces agissements. Et la jeune génération, connectée avec les smartphones, elle arrive à voir ce qui se passe dans le monde. Quel que soit leur lieu de résidence, un village reculé ou une métropole, les jeunes disposent d'autres sources, arrivent à analyser les choses et ont une perception différente de tout cela. Et à partir de là, ils ont une différence de perception avec leur famille.
Une politique d'immigration inexistante, tributaire des besoins politiques du moment, une société qui ne connaît pas ce phénomène, un environnement géographique instable, des millions de réfugiés en quelques années et une crise économique. C'est dans ces circonstances que de nombreuses tensions au sein de la population surgissent et ciblent les immigrés, essentiellement syriens et afghans. À Essa Nyurt, une rixe opposant deux groupes, dont un composé de migrants, a provoqué des ratonnades. Notre envoyé spécial s'est rendu sur place.
Bir çocuğu bıçak çıkarmıştır bizimkilere. Ben öyle duydum yani. Başka bir şey de bilmiyorum yani. Adamlar sanki kendi memleketi. Bak hele kadına şey yapıyor. Bizimkilere karşı geliyor, şey yapıyorlar. Kendi memleketi yok. Toplamaya sahip çıkmaya geliyor. Bunu dayıdık yapıyorlar.
Adamların kimliği yok. Burada geziyorlar.
Adam gelmiş köyden iş bulamıyor. Suriyeli pasaportu iş buluyor. Bunlar iş bulamıyorlar şimdi. Düşük maaşla çalıştırıyorlar adamları. Sigorta yapıyorlar. Bir sürekli burada geliyorlar. Tacizde bulunuyorlar. İnsanlara işte hakarette bulunuyorlar. Her türlü şey yapıyorlar yani. Göndersin devlet bunları. Kalabalık geziyorlar, kılıçlarla dolaşıyorlar. Bu kesime sağlamıyor. Bize kılıç çekiyor, silah çekiyor.
Yani bozmada hakları yok.
Suriye olsun, ne kardeşim,
Irak olsun, kardeşim. İnsan olsun. Bizim kardeşim.
Suriyelilerin mahallesi tıklım tıklım.
İki çocuk gece kavga gündüz, etmiş, mahalle birbirine girmesin kardeşim. Şu,
gece gündüz tıklım tıklım mahalleleri dolu. Devletten yardım alıyorlar. Belediyeden yardım alıyorlar. Şimdi her taraftan yardım alıyorlar. Burada ya, Türk vatandaşları da yardım almıyor.
Ya bu devleti zorlar arkadaş. Biz kardeşi, insanlık kardeşliğine inanıyoruz arkadaş. Bize bir şey insan fark etmez. İnsanlar iki çocuğu birbirine girmesin. Lütfen.
Kızlara saldırıyorlar. Bayanlara saldırıyorlar. Yaşlılara saldırıyorlar. Bunlara devlet önlem alsın. Önlem almıyorsa biz kendi önlemimizi alırız. Aslan nereye kaçıyorsun?
Güzel abicim, ben sana bir şey diyeceğim. Ama bir sigara için değer mi bu işin? Yani vatandaş, sizin vatandaşlar sigara için bir adamı dövüyorlar. Öyle bir şey var mı yani? Çok günah değil mi bu? Yani bilmiyorum, halimiz ne olacak bilmiyorum. Yok, ne olur olur, biz çıkmıyoruz buradan. Çok memnunuz, elhamdülillah, çok şükür. Yani biz buradan çıkmazız.
L'histoire d'amour systémique entre le pouvoir et le patronat avait traversé une mauvaise passe. Mais le nouveau ministre des Finances, Nureddin Nebati, recolle les morceaux.
L'Institut statistique de Turquie a publié les chiffres officiels du chômage du dernier trimestre 2021. Selon ces données officielles, le chômage est resté officiellement stable à 11% malgré le bond de l'inflation au cours du même trimestre. Cette semaine, le ministre du Trésor et des Finances, Nureddin Nebati, a initié une tentative de réconciliation entre le gouvernement et l'association patronale TÜSİAD en participant mercredi à une réunion avec le conseil d'administration. Auparavant, le président Erdogan avait eu des mots durs contre le TÜSİAD après que l'organisation eut publié une lettre ouverte critiquant le gouvernement et l'appelant à revenir à des politiques fiscales orthodoxes et à cesser de baisser les taux d'intérêt. Le président Erdogan avait alors réagi en disant « TÜSİAD et ses variants, c'est à vous que je m'adresse. Vous ne pouvez pas nous combattre. Nous savons qui vous êtes. Vous essayez de renverser ce gouvernement pour pouvoir installer un gouvernement que vous pourrez exploiter. » Fin de citation. Mais ce mercredi, l'atmosphère était nettement plus à la détente après la réunion avec Nureddin Nebati. Le président du conseil d'administration du TÜSİAD, Simon Kaslowski, a fait une déclaration à l'issue de la réunion. Il a dit « Nous avons discuté des effets des mesures prises. Nous avons partagé nos conclusions avec le ministre. Les voies de communication étaient très ouvertes. Ce fut une réunion sincère. Nous pensons que nous poursuivrons ces séances avec le ministre. Nous avons partagé nos points de vue sur l'inflation et nous pensons qu'il y aura une lutte sérieuse contre l'inflation. » Pendant ce temps, la récente tournée de réparation du président Erdogan des relations dans la région du Golfe semble avoir porté ses fruits. Après une décennie de relations tendues avec les Émirats arabes unis, le président Erdogan avait accueilli le prince héritier d'Abu Dhabi Al-Nahyan au palais présidentiel d'Ankara en novembre dernier. Il apparaît maintenant que la réunion a peut-être été plus fructueuse qu'on ne le pensait. Cette semaine, dans une interview avec le président du conseil d'administration du Financial Times, Abu Dhabi Development Holding, Mohamed Hassan Al-Sawadi, a déclaré que c'était le moment idéal pour investir en Turquie. Il a dit « Ce que je préfère à propos de la Turquie, c'est son emplacement. Une livraison atteint l'Allemagne en 12 heures. Il y a une population de 84 millions. La Turquie est un centre de puissance pour l'industrie et possède une grande capacité logistique. Nous sommes définitivement intéressés par la logistique. Nous nous intéressons aussi à l'agriculture et il y a des opportunités là-bas. »
Un article du Washington Post sur la vie des capitaines des navires traversant le Bosphore ont rappelé les dangers éventuels sur le projet du canal Istanbul. On est revenu là-dessus.
Le Bosphore est le petit détroit de 31 km de long qui sépare l'Asie de l'Europe. Chaque jour, 17 millions de personnes transitent par ce détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara jusqu'à la mer Égée et enfin à la Méditerranée. Le Bosphore est l'un des passages les plus importants au monde sur le plan économique et stratégique, similaire au canal de Panama, de Gibraltar et de Suez. Mais pour le président Erdogan, cela ne suffit tout simplement pas. Voilà pourquoi il a lancé son projet Canal Istanbul. Un méga-projet aussi clivant qu'audacieux. Il vise à couper 45 km de zones agricoles, résidentielles et boisées pour former un deuxième détroit de la mer Noire à la mer de Marmara. L'objectif déclaré de ce projet pharaonique est de réduire le trafic maritime dans le Bosphore, car il accueille 8000 pétroliers chaque année. Chacun de ces navires est une catastrophe environnementale potentielle. Comme l'incident d'Independenta en 1979, où un transporteur de pétrole brut est entré en collision avec un cargo et a brûlé durant 27 jours, déversant 64 000 tonnes de pétrole brut dans la mer. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, est le principal promoteur de ce projet pharaonique qu'il qualifie lui-même de projet fou. Et malgré une forte opposition à la fois des dirigeants politiques et des istanbouliotes, il semble déterminé à atteindre son objectif. Il avait déclaré dans le passé « Nous allons construire le canal malgré vous, que cela vous plaise ou non ». Et si la base du parti d'Erdogan soutient l'initiative, le projet est toujours impopulaire, avec 48% de la population qui s'y oppose, contre 37% qui la soutient. Car le canal suscite des critiques de toutes parts. Les écologistes préviennent que le mélange des courants de la mer Noire et de la mer de Marmara pourrait avoir des impacts écologiques dévastateurs. Les experts en infrastructure disent que le coût projeté de 12 milliards de dollars pour le canal est très irréaliste. De plus, le projet éliminerait le lac Durusu, une importante source d'eau douce pour Istanbul, peuplée de 16 millions d'habitants.
Merci à tous de nous avoir suivis.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.